Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
La bonne réponse.
9h40, tout le monde sur France Inter et un petit quart d'heure d'actualité des médias.
Bonjour à tous et bon dimanche.
Ça reste la référence, mais je regarde jamais la télé.
4 secondes exactement, parce que nous sommes en...
L'équipe, les montagnes russes comme rarement dans l'histoire d'un journal. Pandémie, confinement, fermeture des stades, arrêt des compétitions. Le quotidien sportif mord la poussière, on se demande même s'il va continuer à imprimer. L'équipe, en janvier de cette année, une grève plus longue que jamais. L'équipe, quelques mois après, l'actualité sportive rattrape son retard et c'est le feu d'artifice. Juste après le tennis, juste avant le cyclisme et Tokyo. Et en plein euro, question au directeur de la rédaction de l'équipe, un site qui se révolutionne, des rythmes qui changent, France Football qui se transforme, une qui fait jaser, le foot français dans tous ses états, le sport traversé par des mouvements de société qui obligent même le journalisme sportif à se réinterroger. Quelle année ?
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Pavard pour la rentrée de touche sur Paul Pogba. Avec Benjamin Pavard encore à l'intérieur, il y a Benzema, oui, Pogba. De l'autre côté, là-bas, c'est un bon ballon. Lucas Hernandez, sa frappe qui se transforme en centre. Et but contre son camp de Mats Hummels. L'ouverture du score dans ce choc, le premier de cet Euro 2020. Ce France-Allemagne à Munich qui pour l'instant sourit au bleu.
Voilà, je précise qu'on dit l'Euro 2020 à la télévision alors que nous sommes en 2021 car la compétition a été décalée d'une année. Bonjour Jérôme Cazadieu.
Bonjour Sonia.
Vous êtes donc le directeur de la rédaction de l'équipe. On vient d'entendre le France-Allemagne. Alex Vizorek, notre humoriste maison, avait tout prévu le matin même. Dans la matinale, il avait parlé d'un pétain de match et d'un but contre Mein Kampf. Mais c'était un sketch. Vous avez osé la référence à la guerre. Comment 18 avez-vous titré le lendemain matin? Et là, tout le monde a dit comment ça, comment 18?
Exactement, bah écoutez, nous on a évidemment pensé à comment 2018 à la Coupe du Monde, la victoire des Bleus, puisque le match face à l'Allemagne montrait un peu exactement ce qu'on avait vu pendant la Coupe du Monde 2018, une équipe de France qui est forte en défense et capable de se projeter en contre-attaque. Après voilà, la difficulté qu'on a nous tous les deux, tous les quatre ans, quand on a une Coupe du Monde, un Euro, etc., c'est que on a un certain nombre de personnes qui s'intéressent au sport et qui s'intéressent à l'équipe. En lisant l'équipe, qui sont pas des lecteurs de l'équipe nécessairement et qui lisent la une de l'équipe comme ils liraient la une du Figaro, de Libé ou du Monde. À l'équipe, voilà, on fait du sport.
On a le droit que dans la référence sportive.
On a le droit de pas être trop sérieux aussi. Non, mais bien sûr que on sait très bien que comme en 14 ou comme en 40, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est encore la même chose qui va se répéter. Et nous, ce qu'on est en train de dire, c'est bah comme en 18, les Français sont plutôt partis pour gagner leur match en proposant toujours un peu le même type de jeu. Et le chapeau, le papier qui ouvre le journal qui est signé par Vincent Duluc explique tout ça. Voilà. Donc nous, à aucun moment, je vais dire, on se dit ouais, c'est comme en 1918. Voilà. Donc je peux comprendre que des historiens soient choqués. Après, c'est souvent des gens qui ne nous lisent pas, qui lisent Le Figaro, Le Monde, Libé, et qui disent mais attendez,
et qui en sont tombés de leur
voilà,
chaise ce matin-là.
C'est pas possible. Mais qui voient même pas la référence sportive. Voilà. Et juste pour la petite histoire, voilà, nos lecteurs, on s'est posé la question parce que nos lecteurs ont pas compris le titre et on a fait la meilleure vente de l'année. Donc on est plutôt content qui nous ait suivis, qu'ils aient compris en tout cas la référence auquel
on va en reparler de cet Euro 2020 qui se joue en 2021. On va faire un petit détour par le championnat de France.
Ça y est, c'est terminé. Le LOSC vient de remporter le titre de champion de France. C'est un exploit.
Vous l'avez entendu, Jérôme Cazadieu, j'ai 1000 questions à vous poser ce matin parce que l'année a été vraiment très très riche. Interminable et assez lamentable feuilleton des droits de diffusion du football français cette année. On l'a beaucoup suivi dans cette émission. D'ailleurs, on a invité vos journalistes car vous avez été très en pointe dans la couverture de ce dossier. La Ligue s'est crue très riche en vendant les matchs à une firme espagnole qui s'appelle Mediapro, qui les a refacturés direct 25 euros par mois aux téléspectateurs avant de lâcher le marché français en rade. Campagne. Alors après une saison invraisemblable, le championnat de France est prévu sur Amazon Prime, c'est-à-dire sur le web. Édito cinglant de Vincent Duluc, le lendemain dans l'équipe, qui titre un spectacle invisible. Jusqu'où faut-il les laisser choisir de rendre le championnat de France invisible pour quelques dizaines de millions d'euros à se partager entre tous?
Oui, ben on voit bien que pour nous, on a à l'équipe en tout cas, et je pense que pour, on se pose toujours la question de nos lecteurs. Voilà, on essaie de se mettre à leur place. C'est vrai que si on regarde depuis quelques années, le foot a commencé à être sur Canal+, la Ligue 1, puis de Canal+ on est passé avec vers beIN Sport, puis de beIN Sport on est passé après vers d'autres chaînes payantes qui ont récupéré les droits. On est allé sur des chaînes qui n'existaient pas, Mediapro. Là maintenant, on va sur une plateforme qui à la base est plus une plateforme d'e-commerce que une plateforme qui va proposer du sport, même si elle a Amazon Prime, propose régulièrement des contenus de type série, etc. Donc on a quand même une espèce de dispersion aujourd'hui.
Il y a de quoi en perdre ses habitudes, son latin. Il y a de quoi surtout perdre beaucoup de téléspectateurs. Et c'est ce qui se passe pour de vrai, Jérôme Casadieu. Le foot est de moins en moins regardé en France, le championnat de France.
Tout à fait. Les audiences de Canal sur l'année, quand Canal a récupéré les droits cette saison, étaient assez faibles parfois, même battues parfois par d'autres sports qui sont des sports, les sports mécaniques, etc.
Quelles conséquences pour vous, l'équipe qui accordait tant de place au foot, si ce sport français est de moins en moins vu par la population française?
Pour nous, si le foot devient un peu plus invisible, c'est sûr que ça aura des incidences sur nos résultats et sur l'intérêt que les lecteurs vont avoir pour le foot. Donc pour nous, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle que le foot disparaisse, je dirais, un peu des radars. Alors on va me dire, oui, mais il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées à Amazon, et Amazon est évidemment une entreprise qui est beaucoup plus solide que Mediapro. On va avoir dans pas très longtemps, on l'a déjà donné puisqu'on suit bien le dossier, le montant a priori qu'il faudra payer. On sera sûrement en dessous de 10 euros ou autour de 10 euros pour avoir tous les matchs, enfin 80% des matchs de Ligue 1. Mais bon, encore une fois, je pense que le foot, c'est pas un produit, voilà. C'est travaillé comme un produit parce que c'est nécessaire aujourd'hui pour les clubs, parce que
on perd en cours de route plein de passionnés.
On voit même là pendant l'Euro, si vous regardez les audiences pendant l'Euro, les audiences sont mauvaises. Elles sont mauvaises sur les chaînes payantes, elles sont mauvaises sur les chaînes gratuites par rapport, en dehors de l'équipe de France, par rapport à ce qui se faisait par exemple il y a 3 ans ou il y a 5 ans quand il y avait l'Euro. Elles sont mauvaises aussi en Europe. C'est-à-dire que le phénomène qui touche la France, il touche la Belgique, il touche l'Espagne, il touche l'Italie. Donc on est peut-être allé trop loin aujourd'hui dans la commercialisation du produit foot tel qu'il l'imagine.
C'est ça. Ce qui m'intéresse moi quand vous parlez des matchs de l'Euro et des matchs du championnat de France, c'est le rythme de lecture de l'équipe. On se dit qu'il a complètement changé. C'est-à-dire que quand j'étais gamine, et vous aussi, Jérôme Casadieu, l'équipe, c'était le rendez-vous du lendemain matin, où on se précipitait pour voir votre une, ça reste encore le cas, votre titre, vos analyses, vos notes, votre débrief, etc. Aujourd'hui, évidemment, tout le monde se rue pendant le match, sur vos applications, et on se rue sur votre site, en fait, après le match. Vous êtes devenu un journal du soir ?
On est...
Vous, le quotidien du matin ?
Alors, pour être clair, c'est vrai que le journal qu'on faisait par exemple le mardi, c'est le journal qu'on fait le lundi maintenant. C'est-à-dire qu'on a raccourci, je dirais, le temps éditorial. On a un journal qui est à la fois très chaud, comme par exemple le journal de ce matin, on a l'équipe de France a joué à 21h hier soir, mais on va avoir déjà des contenus qu'on avait parfois J+2. C'est sûr que le temps réel aujourd'hui, il se trouve sur le site. Il se trouve sur le site à la fois sur l'information gratuite et aussi sur l'information payante. Je dirais que vous avez un temps intermédiaire qui est la chaîne avec les débats,
la
chaîne de télé
qui est gratuite,
est gratuite également. Et puis en fait, le journal doit être capable derrière d'être à la fois dans quelque chose de très chaud et quelque chose d'un peu plus froid ou tiède, avec beaucoup plus d'approfondissement. Donc on a considérablement fait évoluer l'offre papier, notre offre éditoriale sur le quotidien, mais aussi sur nos magazines, parce qu'on est obligé aujourd'hui de voir que le journal n'est plus dans le temps premier de nos lecteurs. L'usage a changé et je pense qu'aujourd'hui on réussit à plutôt bien le programmer.
C'est ça, vos lecteurs, ils veulent un after match, quoi. Un after foot, un after match comme on l'appelle en radio ou en télévision depuis des années. Et vous, la presse écrite, vous êtes obligé de vous mettre à notre rythme. La Copa América, parce que ça, forcément, en radio, c'est irrésistible.
Fue el primer tiempo. Vargas. Brereton Vargas. Entra hasta la cocina. Vargas levantó la vista. Vargas, golazo.
C'est formidable, on ne s'en lasse pas, j'aimerais bien en diffuser un par jour. Vous aussi, vous aimez ça et vous aussi vous proposez la Copa América à vos lecteurs sur le site. On a l'impression que vous contre-attaquez en réalité pour ne plus être dépendant des médias audiovisuels qui entretiennent un parc de passionnés et un parc d'amateurs.
Tout à fait, on a deux sujets pour nous. Le premier sujet, c'est qu'aujourd'hui on a une offre, notamment sur le numérique, une offre d'information traditionnelle, alors qui est très fortement portée en ce moment parce qu'on a des événements sportifs, mais quand les événements sportifs sont pas là, il faut qu'on ait une offre un peu différente. Donc on a développé deux nouvelles plateformes sur l'équipe. Une plateforme dite live, où on passe la Copa América en ce moment. Donc, c'est formidable. On a passé les quatre premiers matchs à destination de tous les lecteurs gratuits de l'équipe. On a fait, je crois, sur le premier match, 400 000 auditeurs. Donc, c'était
des internautes, en fait.
Des internautes qui étaient venus. Voilà. Donc, ça, c'était très bien. On l'a basculé au bout de quatre jours pour nos abonnés et ça a permis de booster de 10% notre parc d'abonnés. Puis, à côté, on a aussi développé une offre, je dirais, plutôt de temps long, de contenu originaux qui empruntent au code des plateformes dont on parlait tout à l'heure.
Netflix, Amazon,
etc. Et là, on propose des documentaires, des podcasts, voilà, qui sont documentaires en série ou en unitaire, des longs formats multimédia. Et on essaie d'aller, voilà, vers une offre qui est une offre plutôt d'histoires qui n'ont pas toujours leur place à l'équipe parce que on n'a pas une passe infinie et ça marche plutôt bien aussi puisque depuis qu'on l'a lancé, on a 15% de croissance de notre parc abonné. Donc on est très content.
C'est ça. Vous allez partir à Tokyo et vous allez partir très nombreux à Tokyo. On écoute la déclaration de la présidente du comité d'organisation japonais. Elle parlait hier, on va la traduire évidemment. Cette dame explique qu'il va falloir par tous les moyens réduire le flux, interdire la consommation d'alcool, restreindre, je cite, au maximum l'ambiance festive. Et elle dit, ce sont ses mots, les gens peuvent ressentir de la joie dans leur cœur, mais ils doivent éviter d'être bruyants. Vous, journaliste sportif, Jérôme Casadieu, vous allez perdre avec ces restrictions sanitaires un gros morceau de la compétition propre aux Jeux Olympiques, qui est justement l'ambiance festive.
Bien sûr, c'est l'ambiance, c'est l'émotion, c'est
le partage.
On sait que des jeux réussis sont des jeux où la population est heureuse d'accueillir les jeux, ce qui n'est pas le cas de Tokyo. Voilà.
Les Tokyoïtes ne veulent pas
les jeux. C'était malheureusement
ni les jeux ni les journalistes.
Ni les jeux ni les journalistes, voire même pas les sportifs non plus, parce que voilà, ils ont une phobie de la maladie qu'on peut à la fois comprendre et pas comprendre, parce que voilà, les règles qui ont été établies sur l'établissement de plusieurs bulles sanitaires. Vous avez une bulle sanitaire pour les sportifs. Vous avez une bulle sanitaire pour les suiveurs, puis après vous avez les Japonais. Donc c'est-à-dire que globalement, les populations ne vont pas se croiser. Alors nous, on envoie quand même un certain nombre de personnes.
Combien ?
Voilà, on envoie 34 journalistes, hein, c'est presque 50% du nombre de journalistes du quota français.
Ouais.
Mais on n'aurait pas envoyé des journalistes si on n'avait pas négocié avec le CIO des accès quand même. C'est-à-dire, voilà, nous on s'est battu pour être certain que nos journalistes qui iront sur les sites auront la possibilité de voir les sportifs français qui auront une médaille ou auront gagné un titre, voire bon, voilà, seront passés.
Sauf
à côté
que le comité d'organisation, Jérôme Casadieu, a annoncé des mesures de surveillance drastiques.
Oui.
On est à la limite éthique de principes qui vont à l'envers de la liberté de la presse, de la protection des sources.
Oui.
Est-ce que ça vous pose problème, vous, patron de rédaction ?
Ça nous pose problème. J'espère que ça ne va pas nous poser des problèmes.
Parce qu'ils vont être pistés, hein, littéralement pistés, vos journalistes.
Ils vont être pistés notamment d'un point de vue sanitaire, parce que là, c'est vraiment
c'est du pistage quand même.
Ah, c'est du pistage, oui. Vous allez avoir tous les jours une obligation de vous faire dépister, faire des tests PCR ou des tests antigéniques. Vous allez avoir un système de ticketing, c'est-à-dire quand vous voulez aller sur un site, vous devez vous préinscrire. Ils voulaient qu'on soit inscrit que sur un seul site. Donc vous arrivez un matin, vous avez un Français qui se fait éliminer à 9h, mais en fait vous y êtes jusqu'à 20h. On a dit bah non, ça c'est pas possible. Donc on a réussi à obtenir le fait qu'on puisse passer d'un site à un autre. Voilà, j'espère que les Japonais seront un peu plus souples. Je pense que le CIO a envie que ça se passe bien. Voilà, ça c'est en tout cas les messages qui nous ont été adressés. Clairement, voilà. Maintenant, il y a peut-être un décalage entre ce que le CIO voudrait renvoyer comme image et ce que les Japonais accepteront comme condition d'organisation.
Beaucoup d'actualités extrasportives aussi cette année. Ce documentaire produit par Canal+, par Marie Portolano, votre consoeur qui aujourd'hui officie à M6, « Je ne suis pas une salope ».
J'ai en mémoire des soirées où je suis aussi toute seule dans un open space avec un collègue. Et ce collègue se met à crier « J'ai envie de baiser ».
Il me dit « Ah, j'ai vu ta photo, ça passe ton petit boule, on a envie de le croquer ».
Là, je comprends tout de suite que ça va être un enfer, en fait.
Elle a grossi quand même depuis qu'elle est maman, là. Un petit peu de visage, on va peut-être plus la mettre à l'antenne.
Voilà, témoignage de journaliste sportive. Oui. Ça a fait énormément de bruit, bien plus que ce qu'elles imaginaient, en oui. témoignant toutes les 16 ou toutes les 17, je me souviens plus, dans le oui. film. Parmi elles, il y a Frédéric Galamètre, rédactrice en chef de l'Équipe. Il y a Tiffany N, qui a été journaliste à l'Équipe. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Équipe après la diffusion de ce film?
Écoutez, nous, la question des violences sexuelles, qui est un sujet qu'on traite régulièrement, même dans nos oui. colonnes, puisqu'on a, oui. ça a été un de nos, c'est aujourd'hui toujours un de nos combats, elle est extrêmement importante.
Je rappelle peut-être aux auditeurs que vous avez publié, il me semble, en février, cette magnifique enquête sur la jeunesse volée des patineuses. Exactement. C'est l'Équipe qui l'a sortie.
C'est nous qui l'avons sortie.
Voilà,
tout à fait.
La veille de l'Obs qui publiait le témoignage de Sarah Abitbol. Voilà. Et votre enquête était vraiment incroyable.
Et on avait aussi fait la natation, enfin un certain nombre de sports. Pour nous, il est absolument inacceptable.
Sauf que ça, c'est le sport.
Oui, bien sûr. Et après, il y a notre entreprise.
C'était le journalisme sportif.
Bien sûr. Mais après, dans le journalisme sportif aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que vous avez historiquement une culture un peu du machisme qui s'est installée, parce que globalement, ça c'est la réalité aujourd'hui, il y a moins de femmes aujourd'hui qui sont candidates à des postes à l'Équipe. Voilà, nous régulièrement on a des concours avec des étudiants, on fait le tour des écoles de journalisme pour essayer de dire aux étudiants, bah, franchement venez candidater, etc. Je pense que le sport parfois les intéresse pas nécessairement, il y en a quand même quelques-unes qui sont intéressées. Vous aviez sûrement une culture, je dirais au global, dans les médias, qui était sur le sport, qui était une culture un peu machiste. Et il est nécessaire aujourd'hui de changer cette culture-là. Et nous, à l'Équipe, en tout cas moi, depuis que je suis directeur de la rédaction, il faut des actes. Voilà, dans les actes, c'est assez simple. Bah déjà, nommer des femmes à des postes à responsabilité.
Oui. Voilà. Et moi, pendant longtemps, il n'y en a pas eu du tout à l'Équipe.
On est passé de 2 femmes qui avaient des responsabilités à l'Équipe à près d'une vingtaine voilà, en 6 ans. Donc ça, c'est pour moi le premier élément qui est important. Deuxième élément qui est important, c'est que si à un moment donné, vous avez un salarié dont vous savez qu'il a un comportement qui est inacceptable, ben vous laissez pas un instant quelque chose s'installer. Vous devez le voir. Vous avez un cadre légal qui doit être respecté. Et on ne doit pas laisser entendre que, faire une petite blague au coin d'un bar après un match est quelque chose de normal. Voilà, et j'ai quand même le sentiment qu'on avance. Après, on n'est pas toujours présent partout. Voilà, on a des journalistes qui sont mobiles, voilà, nomades. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent se passer, mais on essaie de faire en sorte d'avoir des antennes et de faire attention à ce que ça se passe pas dans l'entreprise.
Alors vous œuvrez ardemment pour le sport féminin, ça on peut pas le contester. Et de temps en temps, vous passez à côté de gestes symboliques. On vient vous titiller régulièrement sur vos choix. En une, Claude Daskolovitch relevait récemment dans sa revue de presse matinale que vous aviez monté en une interview de Griezmann qui paraissait pas indispensable. Fait confiance à lui, il connaît bien mieux le foot que moi, alors que Clarisse Abguenienou, j'espère que j'écorche pas son nom, qui est judoka, décrochait en même temps son 4e titre mondial d'affilée, et elle n'a pas eu la une.
C'est vrai, je le reconnais. Après, c'est pas facile. En fait, la une souvent a été considérée comme un élément de reconnaissance d'une valeur sportive. Donc il y a la hiérarchie, voilà, qu'est-ce qui vaut, qu'est-ce qui vaut pas, etc. Il y a aussi l'aspect commercial, voilà, qui rentre en compte. On peut pas juste le nier. Voilà, nous, on n'est pas une entreprise du service public, donc on a quand même une obligation.
Cet aspect commercial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes lu par des mecs et que vous pensez que les mecs, ont envie de voir des mecs en une?
Il peut y avoir de ça. On est lu à 90%, a priori, ce sont des hommes qui nous achètent. Aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de voir, c'est aussi la valeur parfois des titres. On a eu le sujet, par exemple, lors du dernier Tour de France, où on a mis à la une
Julien Alaphilippe,
qui venait de gagner le maillot jaune, dans une étape où il avait annoncé « je vais aller le chercher là, et je vais le gagner ».
Et vous n'avez pas mis l'équipe de foot de Lyon qui venait de remporter femmes.
Voilà, exactement. Et derrière, on nous a dit « vous êtes sexiste, etc. » Non, je pense qu'il n'y a personne, il n'y a pas un média qui a fait plus pour le foot féminin que nous. Il n'y a pas un média. On a fait 5 ou 6 fois la une avec les filles avant. La seule chose, c'est que ce jour-là, entre un match, une finale en gros de Ligue des Champions, entre 2 équipes, où c'était pas très équilibré.
Et le maillot jaune,
bah en fait là c'est un choix éditorial.
Vous a valu la mauvaise humeur de Jean-Michel Aulas, mais comme il est toujours de mauvaise humeur, franchement. Je vous remercie beaucoup Jérôme Cazadieu, j'ai pas eu le temps de vous poser des questions sur France Football, donc vous reviendrez sur France Football. Ça s'est bien vendu le premier numéro de la nouvelle formule?
Très bien, on est très contents, c'est le meilleur samedi de l'année.
C'est vrai, c'était Mbappé en couverture, quand vous reviendrez quand ce sera une fille. À très bientôt, c'est la fin de l'émission.